Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International, l'émission réalisée avec Radio France Internationale en partenariat avec Le Monde et sur les antennes de TV5 Monde. Merci donc d'être avec nous. Nous avons choisi aujourd'hui de fixer les regards, les interrogations sur une partie du monde bien difficile à décrypter, à anticiper. Il s'agit du monde arabe, essentiellement de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, foyer de tensions, de divisions, d'éclatements. Et nous avons convié, pour tenter d'y voir plus clair, Gilles Kepel. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en France, aux États-Unis, professeur à Sciences Po, et vous êtes spécialiste reconnu du monde arabe et de l'islam. Beaucoup de questions à vous poser au cours de l'heure qui vient avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et de Christophe Ayad du quotidien Le Monde. Peut-être avant de vous entendre, un retour sur ces dernières semaines ou peut-être sur la dernière décennie en Irak avec un comparatif des présidents. Nous allons entendre Barack Obama, l'actuel président donc des États-Unis et son prédécesseur. Retour sur cette période.
Nous sommes prêts à envoyer un petit nombre de conseillers américains supplémentaires, jusqu'à 300, pour évaluer comment nous pouvons entraîner, conseiller et soutenir au mieux les forces irakiennes de sécurité.
En ce moment, les forces américaines et de la coalition procèdent aux premières étapes des opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et défendre le monde d'un grand danger.
L'offensive américaine met fin au régime de Saddam Hussein en quelques semaines. Après cette victoire rapide, c'est le bourbier. La guerre civile fait des milliers de morts. Les Américains finissent par partir en 2011, mais rien n'est réglé. La haine entre chiites au pouvoir et sunnites marginalisés explose, à tel point que tribus sunnites et anciens baassistes accueillent à bras ouverts les fondamentalistes qu'ils ont chassés quelques années plus tôt. Début juin, la surprise générale. Environ 5000 djihadistes débarquent de la Syrie voisine. Ils envahissent et occupent le nord de l'Irak en quelques jours. Les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant imposent leur nouvelle loi. Barrage sauvage, arrestation arbitraire, exécution. Sur cette autre vidéo de propagande, le djihadiste demande à ses prisonniers s'ils soutiennent l'État islamique.
Pour un État islamique,
longue vie. L'homme ne répond pas. Simulacre d'exécution, il sera finalement abattu, comme les autres. Face à ces fous de Dieu, l'armée officielle irakienne contre-attaque avec ses alliés kurdes, mais aussi les milices chiites. Toutes ont répondu à l'appel de leur chef suprême, Ali Sistani. Les trois villes saintes, Najaf, Karbala, mais surtout Samarra, sont désormais menacées par la vague rouge des djihadistes sunnites. Le grand frère chiite voisin, l'Iran, est très inquiet face à l'avancée de ces terroristes.
Nous déclarons à toutes les superpuissances, à leurs mercenaires, leurs criminels et leurs terroristes que la grande nation iranienne n'épargnera aucun effort pour protéger ces sites sacrés.
Paradoxalement, l'Iran et les États-Unis partagent ici le même ennemi. En deviendront-ils pour autant amis? Régleront-ils ensemble la crise irakienne et le dossier nucléaire? Ce n'est peut-être plus qu'une question de temps.
Voilà pour ce parallèle. Gilles Kepel, il y a donc 10 ans, les États-Unis intervenaient en Irak, on se souvient du prétexte des armes de destruction massive. Est-ce qu'aujourd'hui la situation est plus périlleuse, plus incertaine, plus grave d'une certaine façon?
C'est bien pire, oui, puisque vous avez un certain nombre de référents qui étaient des États relativement stables à l'époque, la Syrie notamment, qui aujourd'hui ne le sont plus, et on voit que la
menacée d'implosion.
Enfin, elle a déjà ouais, implosé, hein, puisque au fond, ce qui se passe depuis la victoire au référendum de Shaw organisé par Bachar el-Assad il y a peu, c'est que vous avez aujourd'hui deux Syries, l'une qui est sur la côte méditerranéenne et qui va jusqu'à Damas, et puis l'autre qui touche l'Irak, qui est le bastion aujourd'hui de l'État islamique, qui a traversé la frontière d'ailleurs vers l'Irak également. Vous avez eu l'émergence d'un État kurde. Les Kurdes ont récupéré Kirkouk, qui est un peu leur Jérusalem. Le pétrole kurde coule dans la Méditerranée. Et de l'autre côté, vous avez un bout d'Irak majoritaire, chiite, qui est lui complètement collé à l'Iran et très largement dépendant de celui-ci. Donc,
ce qui a beaucoup,
voilà, et ce qui a changé en fait, c'est que par rapport à la espèce de stabilité qui était née de la première guerre mondiale, ce qu'on appelait les accords Sykes-Picot, hein, qui avait figé d'une certaine manière les frontières, à l'exception de l'État d'Israël qui est né en 48. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ces accords ont explosé. Vous avez un nouvel État très important, qui est l'État kurde, qui est un État qui est assez fort aujourd'hui, qui a beaucoup d'argent, qui dispose de beaucoup de soutiens internationaux, et qui va certainement jouer un rôle nouveau et important qu'on n'arrive pas exactement à percevoir dans la configuration de ce nouveau Moyen-Orient, où par ailleurs, vous aviez des forces de chaos. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire là, est-ce que le paradoxe des paradoxes, est-ce que l'Iran et les États-Unis, en principe ennemis absolus, ouais, vont jouer ensemble? J'étais à Téhéran.
Les ennemis de mes ennemis, c'est bien connu, sont
voilà,
mes amis.
J'étais à Téhéran la semaine dernière, dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient, et j'écoutais le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Zarif, qui nous a parlé uniquement de guerre contre la terreur, c'est-à-dire contre la terreur sunnite. Et si j'avais, en fermant les yeux, on avait l'impression d'entendre George Bush, si vous voulez, c'était exactement le même vocabulaire. Et ensuite, je me suis trouvé à Abu Dhabi dans un autre colloque où là, il n'y avait que des Arabes sunnites, saoudiens, émiratis, koweïtiens et des sunnites de Bahreïn. Et pour eux, cette perspective, c'était l'horreur absolue, si vous voulez. En même temps, les dirigeants des pays arabes du Golfe ont très peur de d'ISIS ou d'ISIL ou de Daesh, dans la langue qu'on utilise, c'est-à-dire les djihadistes d'État islamique en Irak et au Levant. Certains groupes d'individus très riches, sunnites, les ont financés, mais ils ont très peur que ces djihadistes reviennent en Arabie. Pour eux, la route de Riyad passe par Damas, si vous voulez. Finalement, un petit peu le problème qui se pose aujourd'hui aux dirigeants français aussi.
Alors, les questions de mes confrères et consoeurs, Sophie Malibou, RFI.
Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Irak, l'avancée des djihadistes sunnites de l'État islamique en Irak et au Levant, est-ce que cette progression très rapide, c'est le résultat de la situation actuelle en Syrie?
C'est le résultat de la situation actuelle en Syrie et le résultat de la situation actuelle en Irak. C'est-à-dire que en Syrie, ce groupe d'État islamique a gagné énormément d'argent. Il contrôle des puits de pétrole, paradoxalement, qui ne sont pas bombardés par l'armée de l'air de Bachar al-Assad. Ils vendent, autant qu'on le sache, une partie de ce pétrole aux troupes, au régime d'Assad. C'est encore un gros paradoxe. Aux Turcs et à un certain nombre d'autres. Ils ont aussi pas mal d'argent des rançons. Et donc, ça leur a permis de construire un trésor de guerre. C'est un groupe qui est extrêmement mystérieux. Hein. On a un certain nombre de données dessus, mais il ne faut pas du tout le percevoir comme Al-Qaïda, c'est-à-dire comme une entreprise pyramidale qui programme des attentats à l'étranger. Par exemple, le 11 septembre, vous aviez les billets d'avion, les cours de pilotage, etc., qui étaient payés en amont par la comptabilité d'Al-Qaïda, signée par Ben Laden. Là, c'est pas pareil. On a un groupe qui se répand sur le sol, à la surface, avec de gros appuis locaux en Syrie comme en Irak. Vous avez les tribus sunnites qui ne sont pas nécessairement philo-islamistes, mais qui les soutiennent parce qu'elles s'estiment persécutées par les alaouites de Bachar al-Assad d'un côté ou par les chiites de Monsieur Maliki à Bagdad de l'autre. Et là, se crée toute une espèce de bouillon de culture duquel sortent un certain nombre de djihadistes qui vont aller vers l'extérieur, que ce soit vers les banlieues françaises, vers la Belgique, comme on l'a vu, ou bien vers d'autres pays.
On parle beaucoup de ce que Maliki a maltraité finalement les sunnites.
Donc,
d'Irak,
le
et qu'il a, des responsabilités qu'il
irakien.
A dans cet état de fait. Mais est-ce que, je reviens sur la Syrie, la façon de la non-intervention en Syrie est aussi vraiment responsable de la dégradation de cette situation? S'il n'y avait que le facteur intérieur irakien, est-ce que ça n'aurait pas pris une autre tournure?
Ça, c'est difficile de le savoir en rétrospective, mais indéniablement, le fait que les puissances occidentales ont annoncé qu'on allait punir Bachar al-Assad, qu'il fallait qu'il tombe, que c'était l'ennemi de l'humanité, et que ensuite rien n'a suivi. Évidemment, ça a ouvert un gouffre extraordinaire dans lequel se sont précipités un certain nombre d'individus, de djihadistes, qui ont utilisé cet argumentaire, mais qui avaient derrière une autre idée, si vous voulez. Et c'est le dilemme dans lequel sont les États occidentaux aujourd'hui, et le problème qui se pose comment incriminer, même en termes judiciaires, les djihadistes qui partent en Syrie ou qui en reviennent.
Christophe Fayad, Le Monde.
Je vais reprendre un peu ce que disait Sophie. Les erreurs et les bêtises de George Bush, on les a longuement analysées, décortiquées. Mais le fait que Barack Obama soutienne un dictateur chiite à Bagdad et combatte ou dénonce un dictateur assimilé chiite à Damas, c'est-à-dire qu'il soutienne Maliki et qu'il combatte ou dénonce Bachar al-Assad, est-ce que ça rend pas la politique américaine au Proche-Orient totalement illisible? C'est-à-dire, est-ce qu'on y comprend encore quelque chose? Où vont les Américains là-dedans?
Elle est complètement illisible, mais vous savez, la politique russe aussi est illisible. Par exemple, les Russes aujourd'hui fournissent des armes à l'armée égyptienne de Monsieur Sissi, donc payée par un chèque de l'Arabie Saoudite. Or, les Russes sont les soutiens d'Assad, que, en principe, les Saoudiens combattent. Mais désormais, les Saoudiens à Riyad trouvent que les djihadistes saoudiens qui sont allés en Syrie et qui mettent sur leur page Facebook un selfie en disant les dirigeants saoudiens vont tomber une fois qu'on aura fait la peau à Assad, terroristes ou ça. Donc on a cette espèce de recomposition où les repères traditionnels, la seule chose qu'on sache, pour revenir sur le début de votre question, c'est le grand paradoxe des néoconservateurs américains en 2003, quand ils envahissent l'Irak, c'est qu'ils pensent qu'ils vont jouer les chiites irakiens et que les chiites irakiens qui sont, d'après eux, parce que surtout les exilés qu'ils voyaient aux États-Unis à l'époque, qui sont pro-américains et à la limite pro-israéliens, vont établir une sorte d'État vertueux dans la région qui va faire que les chiites d'Iran se soulèveront et feront tomber le régime de Khamenei, le régime de la République islamique, et que ce sera l'Irak chiite, sera le grand producteur de pétrole qui marginalisera l'Arabie Saoudite, coupable d'avoir enfanté Ben Laden.
Ils ont eu le temps de voir que ça se passait pas.
Oui, et en fait, ils ont livré, paradoxalement, les néoconservateurs, c'est le paradoxe ahurissant, ils ont livré l'Irak à travers la promotion donc de Maliki, premier ministre chiite, et qui, au cours des derniers mois, a mené une politique qui excluait complètement les sunnites du pouvoir, ce qui fait que l'État islamique, dans sa progression, c'est pas juste 5000 bons hommes. Quand ils ont pris Mossoul...
Ils ont un soutien populaire, oui.
Et puis pas seulement populaire, aussi des cadres de l'ancienne armée de Saddam Hussein. Le jour où ils ont pris Mossoul, l'armée régulière est partie en courant, peut-être aussi parce que ses meilleurs éléments étaient en Syrie, en train de se battre avec Bachar al-Assad contre les rebelles sunnites. Il faut bien voir la chose. Mais tout de suite, ils ont fait voler des hélicoptères. Or, imaginez un djihadiste qui vient des banlieues françaises ou d'ailleurs, ou du désert saoudien.
Il aurait du mal à piloter.
Je ne pense pas qu'il puisse immédiatement piloter un hélicoptère sophistiqué livré par les Américains. Donc vous avez là des pilotes qui se sont joints à tout ça. Et les néoconservateurs américains avaient joué les chiites irakiens pour faire tomber l'Iran. Ils n'y sont pas parvenus. Aujourd'hui, dans le deal qui se prépare entre les États-Unis et l'Iran, on voit bien qu'une partie de l'establishment américain considère qu'à l'intérieur de l'Iran, il y a une frange de modérés, le président Rouhani, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, par exemple, qui, eux, sont prêts à s'allier aux Américains, probablement pour se servir d'eux pour faire tomber les durs du régime. Vous voyez, donc on a un jeu de, je pense que ça s'appelle, c'est le Mikado, c'est ça, ce jeu où on tire...
Sans faire tomber les autres éléments.
Mais en fait, tout le monde tombe en ce moment.
Est-ce que c'est réaliste, sachant que, par exemple, on a aussi les milices de Moqtada al-Sadr qui sont mobilisées et qui ne veulent pas entendre parler des Américains?
Oui, bien sûr. Enfin, tant que les Iraniens les laissent comme ça. Mais vous savez, dans le monde chiite, aujourd'hui tel qu'il est au Moyen-Orient, c'est l'Iran qui commande, hein, globalement. Et la question, c'est de savoir quel Iran. C'est ça qui m'a beaucoup frappé quand j'étais à Téhéran la semaine dernière, c'est qu'on voyait bien que le système iranien aujourd'hui est assez partagé. Vous avez vraiment un clivage entre le guide suprême Khamenei et les Pasdaran, qui sont l'armée irrégulière idéologique du régime, qui est très riche et très bien armée. Et de l'autre côté, cette tendance plus pragmatique, enfin disons, l'ancien président Rafsanjani, le président Rouhani et les affaires étrangères Zarif, avec qui j'ai eu l'entretien, et dont on a l'impression que eux attendent du deal avec les Américains de pouvoir rouvrir l'Iran à l'étranger. Si l'Iran se rouvre à l'étranger, s'il met son gaz dont il a très grande quantité sur le marché, dont il a besoin, parce que vous allez en Iran aujourd'hui, le pays est dévasté économiquement. J'ai voyagé dans une même journée de Téhéran à Dubaï. C'est pas, comment dire en anglais, qu'il y a simplement un golf, c'est-à-dire un gouffre entre les deux. On a l'impression qu'il y a plusieurs siècles entre les androïdes projetés dans le futur, l'aéroport de Dubaï et tout qui est cassé en Iran, si vous voulez, là, hein. On sent bien qu'il y a un énorme besoin d'argent frais et que c'est là que des choses se jouent. Il y a cette espèce de mouvement tectonique des plaques dans la région qui a été finalement rendu possible par les révolutions arabes, par le dynamisme qu'elle a insufflé, mais qui aujourd'hui part dans des directions que personne ne donne l'impression de contrôler. C'est ce que disait Christophe Ayad à l'instant.
Mais je reviens aux Américains. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il va falloir... Bon, ils sont dans une schizophrénie, anti-Iran quelque part, pro-Iran de l'autre. Est-ce qu'ils vont finir par choisir et réaligner leur politique d'une manière radicale? Et est-ce que vous pensez qu'en Iran, on est prêt à ça aussi? Ou alors, on va rester dans cette espèce d'entre-deux très longtemps?
Sorte d'union sacrée.
Voilà. Deuxième question. Là-dedans, la France, elle, est beaucoup plus pro-sunnite, pro-saoudienne, anti-iranienne, alignée sur des puissances sunnites de la région.
Alors, tout d'abord, les États-Unis, et vous nous répondez sur la France ensuite.
Ensuite, en fait, c'est un jeu encore plus compliqué, c'est un jeu à
quatre. On essaie de comprendre, hein, oui, on vous écoute, mais oui. C'est le principe de cette émission. Voilà, on décrypte.
Et parce qu'il y a Israël aussi, dans le jeu, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, on a tendance à... Depuis les révolutions arabes, on a tendance à oublier cette histoire. Quand j'étais jeune, le Moyen-Orient, c'était le conflit israélo-arabe. Mmh. Ensuite, avec les révolutions arabes, on a vu qu'il y avait le primat sunnite contre chiite. Et ensuite, c'était sunnite contre sunnite, c'est-à-dire les frères musulmans contre les Arabes du Golfe, qui, eux, sont aussi religieux et salafistes et qui ont fait tomber les frères musulmans au Caire en finançant la prise du pouvoir par le général Sisi. Donc, dans cette affaire, aux États-Unis même, vous avez deux grandes lignes qui s'opposent. L'une qui est très favorable au lobby pro-israélien et qui considère que l'Iran est le principal danger pour Israël et qui donc pousse, en tout cas Netanyahou le pousse. Mais j'étais aussi dans cette tournée en Israël et j'ai rencontré un certain nombre de dirigeants, des think tanks, de ce qu'on appelle l'état profond israélien, qui est un état organisé autour des forces de sécurité, qui m'ont dit, mais nous, on a plutôt dit que, on a fait des notes à Netanyahou disant que finalement, on pouvait avoir une politique de la main tendue envers l'Iran. Netanyahou est contre pour des raisons électorales, mais sur le fond, ça n'est pas inenvisageable. Il faut se rappeler aussi que une partie de l'establishment militaire israélien, le général Shaul Mofaz par exemple, sont des juifs iraniens, si vous voulez, qui ont gardé un certain nombre de contacts, peut-être pas directement, mais avec une partie de l'establishment iranien. Donc il y a cet élément-là, et il y a l'élément à l'intérieur de l'Amérique qui dit, au fond, l'Iran c'est 80 et quelques millions de personnes, une classe moyenne assez sophistiquée, une population qui est globalement pro-américaine. Il faut bien voir que l'Iran d'aujourd'hui, c'est le pays, sans doute, en termes de la population, pas du dirigeant, enfin, ils ne le disent pas tous, qui est le plus pro-américain de la région, ce qui est un énorme paradoxe.
Alors, le coup du grand Satan, ce serait fini. Dans ce cas-là, on se réconcilie.
Écoutez, quand j'écoutais j'étais dans la conférence avec les responsables iraniens l'autre jour, je fermais les yeux, je pensais que c'était George Bush. Je n'ai pas entendu une fois parler du grand Satan. En revanche, il n'y en avait que pour les Saoudiens qui étaient violemment incriminés parce qu'on leur reprochait depuis Téhéran d'être derrière la progression de l'armée islamique, de l'État de l'armée islamique, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, l'ISIS, Daesh, enfin, les djihadistes irakiens. La crainte, c'était quoi? C'était que si l'Irak est à moitié perdu pour l'Iran, c'est-à-dire si l'Iran n'est plus capable d'avoir sous son contrôle l'Irak de Monsieur Maliki, alors ça veut dire qu'à ce moment-là, dans le deal avec les Américains, les Iraniens arrivent en position de très grande faiblesse. Mmh. Et s'ils arrivent en position de faiblesse, du coup, ils vont être contraints à des concessions qu'ils ne veulent pas faire. Mmh. Et dans ce processus, c'était une opération sunnite destinée à affaiblir les Iraniens pour les empêcher d'aller au deal.
Gilles Kepel, on vous retrouve dans un instant. Avant cela, sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, pointe de l'actualité. Et on va continuer à tenter d'y voir un peu plus clair dans cet Orient compliqué.
À l'écoute des RFI, il va être midi et demi à Paris, 10h30 en temps universel.
Juliette Rangeval.
Et l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 22 juin 2014. Au moins deux Palestiniens ont été tués la nuit dernière en Cisjordanie, au 10e jour de l'opération de l'armée israélienne pour tenter de retrouver trois jeunes Israéliens enlevés près d'une colonie. Un homme de 36 ans a été